place à une mystérieuse fête foraine dans la tradition des grands rassemblements du 19e et du 20e siècle. De quoi s'amuser ici, mais aussi d'avoir un peu peur. Alors, en ce mois de l'Halloween et bien sûr à l'approche du mois des morts, eh ben c'est une expérience, donc une exposition d'artistes visuels en art contemporain itinérante en provenance de Québec et à mes côtés. Je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec un fond musical vraiment inspirant avec les deux commissaires de cette exposition spéciale, vraiment en plein jardin Gamelin. Eh ben F. Cadieux, Vincent Roy, bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour.
Alors, écoutez, si vous nous présentiez un petit peu cette exposition, le concept d'abord, avant peut-être de parler des artistes.
Oui, bien en fait, c'est né du rêve un peu fou de Vincent et moi, donc de travailler à partir du concept de la fête foraine.
Quelle bonne idée, hein?
Merci. D'inviter des artistes, donc, qui dans leur esthétique peuvent rejoindre la fête foraine, mais aussi un peu plus, qui ont une réflexion sur l'être humain, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il deviendra peut-être, ce qu'il était.
Et il y a donc tout un regroupement d'artistes qui ont ce questionnement-là. On va en parler dans quelques instants. Et vous avez donc participé à ce concept.
Oui, absolument. L'idée de la fête foraine, c'était aussi de créer des attractions, mais que les gens se soient attractifs, justement, que les gens aient envie, et soient curieux de venir voir, parce que c'est quelque chose qui est dans l'histoire, c'est quelque chose qui est prisé. On passe à côté, on voit l'esthétique de la fête foraine, on a tout de suite envie d'y aller, là. Puis on a voulu
absolument,
jouer.
Ça a été mon cas, là. Je suis accourue, là.
Oui. Donc, on vient chercher beaucoup de gens, des marcheurs, ou des gens qui n'étaient pas préparés nécessairement à aller au musée, là. Tu sais, sont dans leur quotidien ou sont dans leur passage, puis là, ils s'arrêtent, puis ils ont une espèce de... On parlait justement de peur ou de rire. C'est justement cette ligne-là qu'on a voulu chercher entre le ludique et le troublant. C'est ça aussi, je pense, que la particularité des fêtes foraines de l'époque 19e, 20e dont vous parliez, c'était ça, hein? C'était pas des manèges d'adrénaline ou juste du bling-bling avec des prix exorbitants d'entrée, etc. On était plus dans la recherche dans l'être humain, là, dans les failles de l'être humain, les êtres humains dans le format, les déformations. Donc on a voulu réactualiser cet esprit-là, ce concept-là, avec ce regard-là, c'est ça, sur l'humanité.
Ah oui, absolument. Alors ici, justement, vous avez réuni, écoutez, c'est un tour de force ou bien il y a eu une bonne réponse à votre appel, mais plusieurs artistes vedettes font partie de cette exposition-là. Alors, c'est une belle occasion de découvrir des artistes vedettes, comme
oui.
Par exemple BGL, là, qui est une œuvre centrale.
Oui, BGL avec le Carrousel. Carrousel, oui. Qui est un manège dans lequel on peut embarquer, participer. Effectivement, Joan Fontcuberta de Barcelone avec son
commissaire du mois de la photo, l'avant-dernier mois de la photo.
Tout à fait. Donc, de Barcelone, Jack Berman de Toronto, Gino Quentin de Québec, Louis Fortier de Montréal.
Et on s'entretient d'ailleurs entre de ses œuvres, de ses sculptures au regard pénétrant et culpabilisant. Mais oui, c'est une belle occasion. Donc, ça veut dire que vous avez proposé donc un questionnement assez approfondi. Là. Le public peut avoir différentes lectures. Hein. Il peut juste venir ici pour s'amuser, observer des œuvres vraiment d'intérêt, mais aussi vraiment réfléchir, hein, sur la relation qu'on peut avoir avec la mort.
Absolument. Je pense que c'est le propre de l'art aussi. C'est une œuvre qui réussit. Je pense que c'est une œuvre qui est ouverte, puis que les gens vont se l'approprier d'une certaine façon. C'est sûr que traiter de l'être humain, ça touche les gens de toute façon, parce qu'on se questionne. Tout le monde se questionne aussi, là, où on est rendu. Puis je pense que les artistes, la réponse des artistes favorables, nous, ça nous a un peu, même nous-mêmes, surpris au départ, parce que tout le monde s'est dit, hey, oui. Puis il n'y a pas personne qui a vraiment hésité, là, à embarquer. Parce que, d'une part, je pense que ça leur permettait,
de réhabiliter la mort qui est un peu évacuée dans notre société.
Pas tant, l'angle, dans le fond, c'était de travailler différemment. T'sais, on n'est plus dans une galerie privée, on n'est plus dans un musée.
On est hors mur.
C'est une autre forme, c'est peut-être un peu plus libre. Il y a peut-être, on sait qu'on va toucher beaucoup de gens, des gens qui ont peu ou pas accès nécessairement à de l'art habituellement. Puis aussi, je pense, la thématique, je pense qu'ils ont saisi l'impact qu'ils pouvaient avoir dans ce cadre-là, qui est peut-être un impact différent dans les institutions.
Peut-être parler de quelques artistes.
Donc, en fait, il y a 10 attractions, si on veut. Donc, plusieurs artistes, des fois, c'est des collectifs. Mais ici, on se retrouve justement à côté d'une œuvre de Louis Fortier, à l'intérieur, où les rôles sont inversés, où on devient... C'est une chambre des curiosités, mais c'est peut-être nous qui devenons la curiosité, hein, parce que les œuvres qui sont des têtes sculptées, nous regardent. Donc, oui, ce sont des belles curiosités à examiner, mais on est examinés, nous aussi. Sinon, il y a un stand de tir. Il faut mentionner aussi stand de tir...
Autre artiste vedette.
Oui, tout à fait, Marc Séguin. Donc, venez tirer sur l'artiste avec des balles de peinture. Donc,
son autoportrait.
Autoportrait.
Son autoportrait. Pas directement.
Mais je pense qu'il faut quand même parler des deux musées qui risquent quand même d'affecter certaines personnes. Il faut les prévenir, il faut les mettre en garde. Et ici, d'ailleurs, il y avait des personnes qui ont beaucoup réagi, hein, par exemple au Musée de la mort, au Freak Show. Je pense que ça vaut la peine de donner quelques indications pour la façon qu'on peut les visiter, finalement.
Parfait. Donc, le Musée de la mort de Jack Berman, artiste de Toronto, photographe, où vous êtes invité à entrer dans un espace sombre et à découvrir des images photographiques. Donc, oui, on peut entrer et penser qu'on est dans une maison hantée, mais on s'éloigne rapidement de la maison hantée pour être dans un musée, le Musée de la mort, où on voit des photos post-mortem.
Et ce ne sont pas des montages. Hein?
Ce ne sont pas des montages, ce sont des photographies belles, pures et dures, des vraies photographies où on rencontre des corps humains, donc des corps qui sont morts, mais d'une grande beauté. Tout ça, cette démarche-là, c'est
faite... Une grande poésie,
c'est fait dans... Toute cette démarche-là est faite dans un grand respect aussi. Donc, Jack Berman qui photographie dans les facultés de médecine et autres laboratoires depuis 30 ans.
Un artiste absolument explorateur qui ne cesse de nous étonner, de nous impressionner. Et vous avez aussi à côté vraiment un kiosque d'actualité. Alors là, on s'intéresse aux images sur Internet.
Oui, avec Joanne Foncuberta.
Oui.
Lui a récupéré, c'est que des images récupérées sur Internet. Pour lui, c'était le monstre aujourd'hui. Qui est le freak aujourd'hui? Puis,
Seulement vraiment, c'est parce que ça nous confronte à un renversement des rôles qui pourrait être bénéfique.
Oui. Ben, ça nous renvoie aussi au freak show d'époque.
Oui.
Hein? On comprend qu'on a récupéré ces classiques-là des fêtes foraines, puis on les réactualise. Puis à l'époque, c'était les êtres humains qui étaient à la naissance déformés, malgré eux, des maladies, des congénitales, etc. Puis on montrait ça au public comme une bête de foire. Puis aujourd'hui, on renverse, c'est les gens volontairement se transforment le corps. On peut dire se monstrifie. Pourquoi le questionnement est plus là? Pourquoi l'être humain arrive à faire ça?
Est-ce que c'est... Se montrer sur Internet aussi, c'est de se transformer, mais d'avoir la volonté d'exister sur Internet. Donc, peut-être l'idée aussi d'exister un peu partout dans le monde, donc de se photographier, de se modifier et puis de se photographier.
Je pense que ce qui est troublant, à mon sens, c'est pas tant... Oui, les images sont percutantes, mais ce qui est troublant, c'est de se dire, OK, l'être humain peut faire ça. Quelqu'un peut décider de se percer la grandeur du corps, peut s'ouvrir des parties du corps, des tatouages intégrales, les piercings intégrales, des comportements aussi très bizarres aussi. Donc, c'est d'être confronté à l'être humain qui est dit normal, mais que dans le fond, on creuse un peu, puis il n'est pas si normal que ça. Donc, c'est d'aller jouer un petit peu dans la psyché un peu humaine. Là.
C'est dans le juste équilibre qu'on peut arriver à fonctionner. Hein? C'est pas en éliminant ni le bien ni le mal en nous.
Oui.
D'où cette mince ligne qui sépare justement la beauté, l'amusement et le troublant aussi. Donc, c'est l'être humain, c'est un peu ça. Hein? C'est à la fois du bon et du mauvais, mais on n'a pas voulu montrer que du mauvais. On a juste une réflexion sur l'être humain aussi. Puis, tu sais, on veut faire vivre une belle expérience aussi aux gens. Puis l'art, c'est pas que beau. Et ça, quand les gens comprennent ça aussi...
C'est bien que les artistes osent aller explorer cette avenue-là, du moins beau, du laid, parce que ça fait partie un peu du cosmos, là. Je veux dire, il n'y a pas que du beau dans cette société. Dans notre société, il y a du laid. Cet équilibre qu'on atteint entre ces antipodes-là, hein?
Exactement. Puis si les artistes sont pas là pour pointer aussi certaines choses différentes, qui va le faire? Tu sais, dans les médias, je dirais les médias de masse, ce qu'on nous présente, c'est un autre être humain. Le beau, propret, puis le méchant, il est pointé, toujours différent de nous. Hein? C'est le méchant, il est ciblé, tandis que là, c'est pas si clair que ça. C'est très nuancé, qu'est-ce qui est bien ou moins bien. Là.
Alors, chaque kiosque propose toute une réflexion. On en a un exemple ici, on peut en discuter abondamment. Peut-être que je terminerais par un kiosque que je trouve absolument magnifique, parce qu'ici, on peut dire que c'est beaucoup de curiosités réunies, puis le concept de cabinet de curiosité est central ici. Il y a vraiment un petit kiosque ici, j'ai été absolument, éblouie par la beauté du kiosque.
C'est Gino Quentin.
De Gino Quentin. Peut-être nous présenter, c'est vraiment magnifique.
Donc, Gino Quentin, quand il parle de son cabinet de curiosité, de sa chambre de curiosité, dit que c'est un cabinet traditionnel. Bon, mais traditionnel qu'il n'est pas tant que ça. C'est vrai qu'on entre et on a plein de choses à découvrir. Gino est un sculpteur exceptionnel qui combine, qui assemble différentes matières, différents matériaux, différentes formes aussi. Donc, encore là, on reconnaît l'être humain. On peut reconnaître des parcelles d'être humain, mais autre chose aussi, le monde animal, le monde végétal. Donc, vraiment, comme un cabinet du 17e siècle, on entre et on découvre plein de choses. Une collection qui se transforme aussi parce que de version en version du manorium, le cabinet se transforme. Donc, effectivement, un très beau lieu. On entre dans un autre espace. Hein. Quand on entre dans la chambre des curiosités de Gino Quentin, on est dans un autre univers. Il y a le miroir aussi qui nous reflète. On dirait qu'il y a une deuxième partie aussi, qu'on peut aller un peu plus loin.
Une ambiance réellement de cabinet de curiosités d'époque. Et je trouve ça vraiment très généreux de la part des artistes d'offrir ce lieu d'exposition avec tout plein de petits objets à l'extérieur. Habituellement, c'est accessible seulement au musée. Et là, on peut voir ce cabinet de curiosités à l'extérieur. J'imagine qu'il va y avoir des mesures de sécurité.
Oui, ben on est vigilants, c'est sûr. Mais en même temps, les artistes sont conscients de ça. Justement, Gino est conscient aussi. On se dit, on fait confiance aux gens.
Absolument.
Dire aussi qu'on a quand même une bonne expérience aussi, d'un, parce qu'on l'a présenté l'année dernière.
À Québec,
on sait ce qui fonctionne. Ouais. Puis Exmuro, c'est l'organisme qui chapeaute, hein, l'Humanorium. Puis ça fait 10 ans qu'on fait de l'art public extérieur. Donc, on commence à comprendre aussi comment. On n'a jamais eu de débris, de vol, de vandalisme. Donc, je pense qu'on trouve une
forme. Le public joue le jeu et avec respect, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Donc, F. Cadieux, Vincent Roy, les deux commissaires de cet événement, hein, réunissant 10 artistes. Donc, un événement intitulé Humanorium, hein, accessible, oui, jusqu'à quelle date?
C'est du 5 au 15 octobre. Oui. Et c'est ouvert le jour, la matinée, là, vers 11h, 11h30, jusqu'à 21h le soir. Il faut venir le jour, il faut venir le soir aussi. C'est deux ambiances totalement différentes. Il faut dire aussi qu'on a la chance d'être supporté par des bailleurs de fonds, le Conseil des arts du Québec, mais aussi le Conseil des arts du Canada, avec une bourse, un nouveau chapitre, qui nous permet de partir en tournée. C'est comme le premier arrêt d'une tournée canadienne, je dirais, qu'on va poursuivre l'année prochaine. Donc, c'est vraiment comme une vraie fête foraine. C'est itinérant.
Bonne nouvelle! Et bien sûr, ça s'inscrit dans le cadre des festivités du 375e. Hein?
Et de Kilomètre Cube, effectivement. Oui.
Alors, fallait nommer tous ces gens-là. Merci beaucoup. Alors, j'espère que BGL sera là pour nous faire tourner son carrousel, comme aujourd'hui, quelque temps. Oui, durant les 15 jours.
Ce soir, tout à fait.
Pour l'inauguration.
Exactement. Oui, mais pendant tout le reste de la semaine, là, c'est notre équipe qui va tourner le carrousel. Exactement.
Ben, merci. Bonne fête foraine.
Merci. Au revoir.
Merci.